RCF.
M comme midi, l'invité.
Avec l'autrice Christelle Ravet, bonjour.
Bonjour.
Autrice, romancière, vous écrivez également des pièces de théâtre et vous êtes chaque année à la manœuvre pour la grande enquête du festival Quai du Polar. Et c'est une fois de plus le cas, n'est-ce pas ?
Voilà, c'est une fois de plus le cas cette année.
Ils ne peuvent pas se passer de vous.
J'espère.
Vous aimez ça ? Vous y trouvez encore du goût ? Parce que vous le faites depuis combien d'années maintenant ?
Alors c'est la 14e année, je crois. J'ai même un petit peu perdu le compte, mais j'adore. J'ai toujours autant de plaisir à le faire. Et le point commun entre toutes ces activités, c'est l'écriture de fiction, l'invention d'histoires et de personnages avec lesquels j'espère divertir, amuser, faire rire, tout en permettant de réfléchir, d'apprendre un certain nombre de choses. Donc que ce soit des enquêtes urbaines ou des romans ou du théâtre, c'est un petit peu la même chose.
Ouais. Vous êtes avec nous, on reparlera de Quai du Polar un peu plus tard, mais vous êtes avec nous pour la publication d'un livre, Petit meurtre dans la soie, c'est la première aventure de Betty Tan Hick, avec un trait d'union. Vous êtes amusé déjà rien qu'avec le nom du personnage.
Voilà, rien qu'avec le nom du personnage, je crois qu'on a le ton et les enquêteurs de Quai du Polar ne s'y tromperont pas. C'est le même genre de jeu de mots que dans l'enquête. Elle s'appelle Betty Tan Hick et comme son nom le suggère, elle est avant tout caractérisée, définie par sa phobie du naufrage.
Naufrage dans sa vie personnelle ?
Alors, naufrage dans la vie des gens, parce que Betty est un personnage que j'ai voulu avant tout généreux.
Elle est solaire.
Elle est à l'écoute des autres. Elle a un métier qui permettait de faire tout un tas de choses. Elle est conseillère conjugale. Et sa vocation, si on peut dire, c'est de remettre les couples à flot, pour garder la métaphore du monstre Titanic. Elle essaye par tous les moyens d'amener les gens à s'entendre à nouveau, à s'entendre mieux. Ou à prendre des chemins différents, mais sereinement, quand vraiment il n'y a pas d'autre choix. Et le drame pour elle, c'est que dans sa vie personnelle... C'est un peu plus compliqué. Elle a bien du mal à rencontrer l'âme sœur.
Donc dans ce roman qui est un roman policier,
voilà.
Alors qui est dans une catégorie un peu nouvelle dont on parle de plus en plus, c'est le cosy polar, c'est ça ?
Alors on en parle, voilà, on parle du cosy polar, du cosy mystery... c'est bien d'avoir mis une étiquette sur cette catégorie. En même temps, elle n'est pas tout à fait nouvelle.
Oui. Ça date de quand, en fait ? Quels sont les premiers auteurs ou les premières autrices de cozy mystery ?
Oh, je saurais pas le dire. Je pense que Agatha Christie, à sa façon, a déjà mis en scène un monde british, alors un peu plus sombre peut-être.
Oui, il y a un peu de noir quand même dans Agatha Christie.
Voilà, hein. C'est un petit peu plus sombre.
C'est un peu grinçant des fois.
Mais quand on lit par exemple Lillian Jackson Brown ou voilà, la série des Shaki, il y a des choses qui sont très, à mon sens, très cozy mystery. Après, le concept part un petit peu en étoile avec différents auteurs,
voilà,
différents
univers. Chacun y ajoute sa patte. Voilà. Vous, votre patte, ça serait quoi dans ce domaine-là ?
Alors, je dirais que l'étiquette...
Christelle Ravet, je ne sais même pas si j'ai donné votre nom.
Je ne sais pas.
Bon, je manque à mes devoirs. Si. Benoît, qui est à la réalisation, qui est vigilant, il m'a dit si
le
si tu l'as dit. Voilà. Vous, votre patte alors dans cet univers-là
Alors je dirais que voilà, quand on prononce l'étiquette cosy polar ou cosy mystery, on voit bien que ça sonne anglais quand même. Là j'ai envie de dire que la patte elle est lyonnaise.
Oui.
C'était
évident pour ce personnage de l'ancrer à Lyon. Alors, vous êtes vous-même lyonnaise, vous habitez à Lyon ?
Voilà, moi je vis à Lyon depuis plus de 30 ans et ma famille maternelle est complètement lyonnaise.
Donc, il y a un peu de vous dans le personnage de Betty Tan Hick ?
Je crois que dans tout ce qu'on écrit, il y a un peu de nous. Après, pas forcément là où les lecteurs le pensent, mais on met forcément un petit peu de soi.
Vous êtes à l'écoute des autres aussi, comme elle.
Ça
permet un peu aussi de voler quelques éléments pour nourrir vos romans.
Ça, c'est un petit peu le principe de l'écriture, effectivement. Je dis toujours, il n'y a pas forcément beaucoup d'imagination quand on écrit des romans. Il y a beaucoup d'observations, beaucoup de ressentis, beaucoup de... Voilà, on fait l'éponge avec ce que les gens racontent, avec ce que les gens apportent et on s'en inspire pour toutes les situations qu'on écrit après.
Et elle est venue d'où l'idée de l'ancrer dans cette profession de conseillère conjugale ? Qu'est-ce que ça vous permettait ? Ou est-ce que vous êtes carrément allé vous inspirer de quelqu'un de votre entourage aussi ?
Non, pas forcément. Alors, ce métier de conseillère conjugale, d'abord je trouve que c'est un métier à la fois très sérieux et très amusant.
Qu'est-ce qui est amusant ?
Alors, ce qui est amusant, c'est que quand on le regarde par le prisme de... Comment je pourrais l'exprimer ?
Faites attention, hein, parce qu'on a des conseillères conjugales qui viennent régulièrement dans nos studios.
C'est ça. C'est peut-être pas tant. Alors, je me suis peut-être mal exprimée.
Non, mais vous avez le droit.
C'est peut-être pas tant le métier qui est amusant que le nombre de situations que j'allais pouvoir générer à travers ces rencontres qui me donnaient un potentiel. Parce que la caractéristique du Cozy Mystery, c'est quand même aussi l'humour. Et l'envie de faire passer des messages tout en faisant rire le lecteur, tout en faisant sourire du moins.
Parce que c'est un humour bienveillant. Votre roman, il est bienveillant.
Il est complètement bienveillant.
Sent bien, il faut qu'on se sente bien. C'est pas le polar noir avec le policier qui est alcoolique, qui a plein de problèmes, etc.
C'est pas le polar noir. Et je dirais que là, c'est mon 8e roman. C'est le premier qui est vraiment un polar. Mais ça ne pouvait pas être du polar noir parce que je crois que justement ce que vous évoquez en disant la bienveillance, c'est un petit peu le point commun de tous mes romans. C'est-à-dire que J'aime défendre l'idée que dans la vie, ça irait mieux s'il y avait un peu plus de bienveillance, effectivement. Ça, c'est une idée qui me tient à cœur. Alors, l'idée aussi de la conseillère conjugale, c'est que je pense très sincèrement que quand on a mal aux pieds, on va voir un médecin éventuellement spécialisé dans les pieds. Quand on a mal à l'âme ou quand on a mal...
À son couple, en l'occurrence.
À son couple ou à son cœur. Il y a des gens qui sont là pour nous aider aussi et qui s'appellent des psys. Alors je voulais pas.
Donc vous faites un tout petit peu la promotion de la profession.
En tout cas de Betty. je voulais pas qu'elle soit. Je connais pas suffisamment la profession de et toutes ses variantes. Donc conseillère conjugale, ça me paraissait pouvoir faire entrer des personnages, les faire entrer par deux aussi. Et il y avait ce côté-là qui m'intéressait.
Alors bizarrement, l'histoire que vous racontez ici, elle commence par une personne.
Oui.
Une jeune fille, enfin une jeune femme. Alors je l'écoutais en audio. Alors, c'est pour ça que je dis une jeune fille, parce que je trouvais qu'elle avait une voix très jeune. Donc d'une femme qui s'inquiète pour sa grand-mère qui a disparu.
Pour sa mère.
Sa mère, pardon. Sa mère. Vous voyez, comme je l'ai entendu jeune, j'ai tout de suite
il
dit.
Il fallait ajouter une génération.
C'est sa grand-mère, voilà. Donc pour sa mère qui a disparu. Donc il y a quand même ce point de départ, comme dans toute enquête policière souvent.
Voilà.
Une personne qui a disparu, qui est peut-être morte aussi. Voilà. Vous l'avez ancré, ce personnage disparu, dans un milieu très lyonnais.
Dans un milieu très lyonnais. Alors je voulais que le premier tome de la série reflète vraiment l'histoire lyonnaise. Donc c'est une dessinatrice en soie qui disparaît, dessinatrice pour la soierie. C'est un métier qui ne conserve, enfin, on va dire qui est de plus en plus rare à Lyon. Mais je voulais aussi montrer, enfin faire des passerelles entre le patrimoine lyonnais et la vie d'aujourd'hui et tous ces milieux des créateurs de mode qu'on essaye aujourd'hui de remettre en avant et qui, finalement, cette vitrine de Lyon qui continue de fonctionner toujours et d'attirer aussi les gens. Parce que le Cozy Mystery, l'idée c'était que, alors comme dans les enquêtes qui est du polar, on se refait pas quelque part ou comme dans mes autres romans, j'aime bien qu'il y ait un ancrage historique. Pour autant, je n'avais pas envie d'écrire du roman historique. J'aime bien l'idée de tracer un fil, une direction, des liens entre notre histoire, notre patrimoine, celui de notre ville, et puis ces mutations d'aujourd'hui, ces projections vers le futur aussi. Donc cet aspect-là, me tient à cœur, mais me plaît aussi. C'est-à-dire quand j'écris, j'aime bien faire des recherches, j'aime bien. Et à force d'écrire les enquêtes urbaines, c'est vrai que l'histoire de Lyon m'intéresse aussi. Et je commence à bien connaître la ville aussi dans sa topographie, en l'arpentant, en grimpant les collines, tout ça. Et j'avais envie qu'à la fois les Lyonnais redécouvrent leur ville à travers ces enquêtes, mais que les gens qui sont moins lyonnais, ou pas du tout, et un petit peu le sentiment, après avoir lu le roman, d'avoir passé un week-end à Lyon.
Ah oui, c'est très clair, on se repère. Moi qui y habite, j'ai reconnu tous les endroits. Pour revenir à cette histoire de soie, de soyeux, de l'histoire textile de Lyon, vous parlez par exemple du village des créateurs,
voilà,
en bas des pentes. Voilà.
Donc c'est le village des créateurs, c'est le lisage de dessins, c'est les grandes manufactures de soieries.
Et donc on se promène comme ça en suivant votre personnage qui elle est croix-roussienne. En quoi elle est croix-roussienne par exemple? Est-ce qu'elle a des caractéristiques typiques?
Est-ce que le croix-roussien se reconnaît dans la rue?
De la croix-roussienne.
Elle y habite en tout cas.
Elle y habite.
Elle y habite, sa grand-mère y habite aussi.
Elle est souvent dans les cafés. Elle aime bien aller dans les restaurants.
Voilà. Vous posiez la question, est-ce que Betty me ressemble? Alors pour son addiction au café, oui.
Ça vous nourrit ça aussi?
J'adore écrire dans les bistrots, je trouve que c'est un lieu où on entend aussi des tas d'histoires.
Ça ne vous distrait pas trop pour rester concentré sur votre
histoire? Non, je dirais qu'il y a une sorte de mécanisme qui se fait. Si l'histoire sommeille en arrière, j'entends tout ce qui se dit. Si je plonge dans ce que je suis en train d'écrire, j'entends plus rien.
M comme midi, l'invité.
Toujours avec Christelle Ravet, autrice notamment de Petit meurtre dans la soie, la première enquête de Betty Tanik. Alors, un livre un peu particulier, parce qu'on ne va pas pouvoir le trouver dans une librairie classique en format papier. Pas pour l'instant, je ne sais pas si à l'avenir ça sera possible. Mais soit on le lit sur une tablette, soit on l'écoute. Comment s'est née cette idée-là de ne pas faire un livre classique ? C'est eux qui ont fait appel à vous, qui vous ont soufflé alors, cette idée de livre ?
C'est ça, c'est-à-dire que quand on écrit,
c'est chez Kobo, il faut
le
dire.
Kobo, voilà. Donc c'est un livre publié dans la collection originale Kobo, c'est-à-dire un contenu original qui ne sera disponible pour l'instant que sur les plateformes Kobo. Mmh.
Donc on télécharge sur une tablette.
Donc on télécharge sur une tablette,
sur une liseuse.
Voilà, une liseuse, ouais. Dans une liseuse ou qu'on écoute en format audio. Mmh. Alors si on n'a pas de liseuse, effectivement, il suffit d'installer l'appli Kobo qui est gratuite et de charger le livre en format audio ou e-book.
D'accord.
Si on a déjà acheté une liseuse Kobo, on peut le rentrer dedans aussi. Mmh. Alors je dirais que le format, il est venu d'une rencontre, tout simplement. Quand on écrit, on cherche des éditeurs. Et là, j'ai échangé avec une éditrice qui m'a dit, ben voilà, nous, c'est du contenu numérique. Par contre, votre projet nous intéresse.
D'accord, vous aviez déjà l'idée de l'histoire, le personnage, enfin, l'essentiel, voire c'était écrit.
Alors, c'était pas écrit, non. Mais j'avais déjà imaginé cette série.
Oui.
Je l'avais conçue comme une série. Mes autres romans ne se passent pas forcément à Lyon, quelquefois un peu, pas toujours. Mais là, j'avais envie d'une série qui donne finalement l'idée de ce que peut être la vie à Lyon aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une... je me disais qu'à travers une série, on pouvait vraiment faire sentir ce que vivent les Lyonnais, à la fois dans leur ville et puis dans leurs escapades autour. Mmh. Et puis ce qui fait l'essence un petit peu de cette vie à Lyon, essayer d'en cerner quelque chose. Mmh. Et petit à petit, au hasard des différents tomes, de dessiner un petit peu également tout le patrimoine, toute l'histoire qui gravite autour.
Lorsque vous avez su que ce livre allait être disponible sur liseuse ou en audio, est-ce que ça a changé un tout petit peu votre manière d'aborder l'écriture ou est-ce que vous avez vraiment écrit de la même manière que vous avez écrit les livres précédents ?
Alors, je l'ai vraiment écrit de la même manière parce que je pense que lire sur une liseuse ou lire sur un livre papier, c'est le même contenu. Pour le coup. Mmh. Au niveau de l'audio, il y avait quelques préconisations de l'éditrice.
D'accord.
Au niveau des dialogues, par exemple, mais qui n'ont pas changé fondamentalement en fait ma façon d'écrire. Mmh. C'est juste avoir un petit dans le coin de la tête l'idée que ça allait être lu, mais quand on écrit, enfin, on connaît les auteurs classiques, on sait qu'ils lisaient leurs textes à haute voix, et je pense que c'est ce qui permet le mieux d'entendre si la phrase a son rythme, si elle sonne comme il faut. Donc à partir de là, qu'on l'écrive sur papier ou qu'on la lise, elle va sonner.
Vous-même, vous procédez comme cela ? Vous lisez vos textes à voix haute parfois ou vos phrases ?
Alors,
dans les cafés, j'espère.
Pas dans les cafés, non. Je les lis rarement à voix haute, mais je les entends dans ma tête.
Ouais.
Je suis quelqu'un qui lit très lentement, même quand je lis le livre de quelqu'un d'autre. J'ai le rythme de la voix.
Ça sonne.
Il faut que ça sonne,
autant que
possible.
Ouais. Vous reprenez un peu ce personnage qu'on retrouve dans pas mal de fictions, d'enquêteur amateur, d'enquêteur oui. Malgré lui. Là aussi, vous aviez des références.
Je pense que j'ai envie de dire, c'est un petit peu plus facile, quoi, qu'on connaît pas. Alors, bon, évidemment, je me suis renseignée sur le fonctionnement de la police. Mmh.
Qu'il y a un personnage de policier.
Il y a un personnage de policier. Donc, c'est pas venu de rien non plus. Mmh. Mais je n'avais pas envie, en fait, d'être dans la tête d'un flic.
Est-ce que ça vous intéresse peut-être pas beaucoup on rentre tout de suite dans des choses un peu techniques.
C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a le côté technique, il y a le côté l'univers du commissariat. J'avais pas spécialement envie de décrire cet univers-là. Je préférais l'univers du cabinet de la conseillère conjugale. Mmh. Ça me paraissait plus me parler davantage.
Mmh. Et sa vie personnelle aussi.
Et sa vie personnelle.
Il y a toute une constellation de personnages.
L'idée, c'est effectivement une histoire personnelle qui va se suivre aussi tout au long de l'enquête. Il y a des personnages. Il y a son chat aussi, qui n'est pas le moindre des écueils dans sa recherche amoureuse. Mmh.
Le chat, vous l'avez pensé à quel moment ? Lorsque vous êtes dit, ah, ça va être un roman un peu cosy. Ah oui, il faut un chat.
Non, j'adore les chats.
Et une tasse de thé à côté.
C'est ça. J'adore les chats, tout simplement. Et j'avais envie de ce personnage qui puisse quasiment vivre comme un autre personnage. Mmh. En l'occurrence, il est ultra possessif. Il est, voilà, il est touffu, glouton et possessif. Oui.
Et puis, il permet aussi de faire dire certaines choses à votre personnage principal, à Betty, parce qu'elle lui parle.
Elle lui parle, ben oui, comme elle est fréquemment célibataire, on va dire, puisqu'elle elle a beau essayer de construire sa vie conjugale, autant sa meilleure amie a 5 enfants et mariée de longue date, autant elle a un petit peu le contrepoids de cette famille-là. Il fallait qu'elle puisse aussi, à haute voix, formuler un certain nombre de choses.
Pour écrire Petit meurtre dans la soie, Christelle Ravet, est-ce que vous avez mené une enquête en particulier sur un milieu, sur est-ce qu'il a fallu aller chercher certaines informations qui vous manquaient? Pourtant, ça fait des années que vous enquêtez sur Lyon. Est-ce qu'il vous manquait des petites choses pour boucler cette histoire?
Alors, j'ai essayé d'approfondir, évidemment, le contexte de la soirée, l'histoire de la soirée lyonnaise. Mmh. Là, j'avais quelques bribes en tête, mais qu'il y a eu des recherches autour de ces thèmes-là.
Et pour bâtir ce personnage de conseillère conjugale, là aussi, il a fallu un peu aller chercher des informations à droite à gauche.
Alors là aussi, je me suis renseignée un peu, mais j'avoue que j'ai essayé de me dire, si j'étais moi-même conseillère conjugale, comment je ferais? C'est un petit peu présomptueux, hein, comme
vous feriez comment, alors
comme point d'entrée dans le problème.
C'est peut-être une prochaine reconversion.
C'est ça, voilà.
On connaît des auteurs qui sont à la fois psychanalystes,
et
romanciers.
Et auteurs de romans, voilà. Tout à fait. Oui. Non, c'est pas forcément mon idée, mais, mais j'ai essayé de voir comment on pouvait construire un personnage qui soit singulier en même temps. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans une école particulière, elle s'est construite sa méthodologie un petit peu.
Dans les jours qui viennent, on va pouvoir mener une enquête, nous-mêmes, une enquête que vous avez écrite une fois de plus pour le festival Quai du Polar. On peut encore s'inscrire sur le site internet, on peut peut-être aussi aller à la galerie des terreaux pour le faire, je ne sais pas.
Alors là, c'est plus risqué. Je dirais que pour ce week-end de festival, c'est-à-dire demain, vendredi, samedi et dimanche, on peut s'inscrire en ligne. Parce qu'on était dans l'obligation, évidemment, de limiter un petit peu les jauges à cause de la Covid. Donc, il vaut mieux s'inscrire en ligne, s'assurer qu'il y a de la disponibilité sur le créneau qu'on choisit.
D'accord.
C'est sur le site de
Quai du Polar.
Il faut quand même
choisir le créneau, même si c'est en partie digitalisé.
Voilà, il faut choisir son créneau pour retirer son petit livret d'enquête.
D'accord.
Sans lequel on ne peut pas mener l'enquête.
Mmh. Donc, il y a un livret papier?
Voilà, il y a un petit livret papier qui sera distribué sur les 3 jours aux enquêteurs inscrits. Et à partir de lundi, Le PDF du livret sera téléchargeable sur le site de Quai du Polar et là les enquêteurs pourront mener l'enquête à leur guise quand ils le souhaitent. Alors comme on avait privé les enquêteurs d'un certain nombre de choses, on n'a pas pu mettre les comédiens dans la rue, puis on voulait que l'enquête reste disponible pour autant de personnes que d'habitude et ça nous demandait de l'étendre sur 2 semaines. Donc on a imaginé d'autres dispositifs.
Donc les comédiens, on pourra les voir sur son smartphone par exemple.
On pourra les voir, il y aura des flashcodes à scanner aux différentes étapes pour accéder soit à des vidéos d'archives, soit à des vidéos avec les comédiens, soit à des documents aussi.
Vous amusez beaucoup, j'imagine, à construire ces enquêtes, ce puzzle.
C'est un vrai puzzle, c'est à la fois une construction amusante à concevoir, puis j'apprends plein de choses.
Vous parlez de l'histoire, donc là on va retrouver encore la révolte des canuts, donc décidément
on
reste
on
dans cette histoire des soyeux.
Voilà.
Et puis la création du parc de la Tête d'Or est aussi au cœur de cette enquête.
Voilà.
Ouais. Et un personnage, alors que se passe-t-il en ce moment pour vous? Encore un personnage de vieille dame, c'est-à-dire dans le roman dont on a parlé tout à l'heure, c'est une vieille dame qui disparaît, et là cette fois-ci, vous faites tomber une vieille dame à l'eau.
Mais alors là, malheureusement, c'est pas qu'est-ce qui se passe ces jours-ci, c'est un petit peu, dans tous mes romans, je crois qu'il y a des points communs qu'on m'a fait remarquer, il y a souvent des vieilles dames. J'aime beaucoup cette idée de l'intergénérationnel, en fait, de, où tout le monde peut vivre ensemble, et ça se retrouve malgré moi dans mes personnages, qui ont un petit peu tous les âges, et voilà.
Oui, et parce que vous avez aussi une affection particulière pour les personnes âgées?
Mais je crois que oui, une forme de. Je crois que les gens qui sont. J'ai toujours été très émue par le fait de me dire que des gens qui sont très âgés, finalement, nous font remonter une centaine d'années d'histoire, en vrai, si je puis dire. Se dire que quand je regardais mon grand-père, qui heureusement pour moi est venu très âgé, donc on a eu vraiment le temps de se connaître et d'échanger. Je me disais, mais ses parents ont connu Napoléon. Enfin, voilà, il y avait des côtés comme ça. Peut-être pas Napoléon, mais ses grands-parents à lui, pardon. Je me suis trompée d'une génération. Ses grands-parents à lui, au toucher du doigt. ce 19e siècle.
Voilà, donc là, c'est Adélaïde Perdri qui est tombée à l'eau. On l'a poussée, apparemment.
Apparemment, elle a été poussée.
Donc, il faut trouver qui l'a poussée. C'est l'enquête que vont mener les Lyonnais, puis tous ceux qui vont venir à Quai du Polar ce week-end. On pourra encore continuer cette enquête, c'est ce que vous nous dites, ou la débuter la semaine prochaine.
Voilà, jusqu'au 18 juillet.
Voilà, c'est une enquête qui va, cette année, se prolonger. C'est la première fois qu'elle se prolonge comme ça, un peu après
C'est la première fois. C'est la première fois.
D'habitude, donc, c'est un des avantages de cette crise du Covid.
Mais c'est un des avantages.
Si on loupe le coche ce week-end, on peut quand même...
Voilà, l'autre avantage, c'est qu'elle est deux fois plus longue, avec deux fois plus d'indices, deux fois plus d'énigmes.
Voilà. Donc on peut passer du temps à mener des enquêtes de deux manières. Avec cette enquête Quai du Polar, le secret d'Adélaïde Perdri, il faut s'inscrire sur le site de Quai du Polar ou en téléchargeant sur une liseuse. On peut aussi, presque vous venez de dire, le télécharger aussi sur un ordinateur portable, par exemple, sur n'importe quel support. Kobo, donc c'est l'application Kobo ou la liseuse Kobo qui nous permet de lire cette histoire ou de l'écouter en audio, ça se fait de plus en plus. Et donc c'est une expérience, moi c'est la première fois que je vis ça. Donc merci beaucoup Christelle Ravet, Petit meurtre dans la soie aux éditions Kobo. À bientôt.
À bientôt, merci beaucoup.